VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, sentence au procès en assises à Abidjan lié à la crise post-électorale ivoirienne. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son dernier premier ministre Gilbert Akengbo, ainsi que deux de ses ex-ministres, ont été condamnés jeudi à 20 ans de prison pour des faits de braquage de l'Agence nationale de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, pendant les événements. Plus de détails avec notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
20 ans de prison avec une amende de 329 milliards de francs CFA. C'est le verdict rendu par le juge Sombé Meïté jeudi au tribunal de première instance d'Abidjan pour l'ex-président Laurent Gbagbo et à Gilbert Akengbo, son ex-premier ministre, Kone Katina, son ministre du budget et Désiré Dalo, son ex-ministre de l'économie et des finances. Tous les trois accusés par le ministère public ivoirien pour vol en réunion par infraction portant sur des cave à la BCAO en vue d'obtenir des liquidités en pleine crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Aussi, c'est UC qui avait dressé les procès-verbaux de constat après ce braquage et écope de 36 mois de prison et de 700 000 francs d'amende. Les procès en assises autour de la meurtrière crise post-électorale en Côte d'Ivoire se poursuivent. L'ex-ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, Lida Kwasi, et ses trois co-accusés ont été reconnus jeudi soir coupables de complot contre l'autorité de l'État et condamnés chacun à 15 ans de prison par la Cour d'assises d'Abidjan, un verdict jugé politique par la défense. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Au Sénégal, de violents affrontements entre le groupement d'intervention mobile de la police nationale et des étudiants en grève ont abouti à un incendie au sein du campus social de l'université de Dakar jeudi. Le compte-rendu de notre correspondant sur place, Sedina Abagay.
Depuis le début de l'année, les étudiants réclament les arriérés de leur bourse et l'accompagnement et le paiement d'indemnités pour les Master 2. Comme l'indique Jen Gom, président de l'Amicale des écoles et instituts de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. N'ayant pas eu gain de cause, ces étudiants ont entamé une grève et ont pris d'assaut l'avenue Cheikh Anta Diop, l'une des plus importantes de Dakar. La dite avenue traverse la façade principale de l'université et passe devant le Centre National Hospitalier Universitaire de Fan et le bâtiment abritant la cour de répression de l'enrichissement illicite. Pour contrer les étudiants et lever le blocus, les forces d'intervention de la police nationale ont usé de grenades lacrymogènes. Certaines grenades ont atterri dans un des bâtiments de logement des étudiants, le pavillon PM5, provoquant un incendie qui a réduit en cendres la chambre 28 du bâtiment. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire le feu. À la suite de cet incident, les affrontements ont redoublé de violence et la circulation a été coupée sur cet axe. Un étudiant a été arrêté et plusieurs blessés légers et cas d'évanouissement ont été déplorés. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
En Guinée, l'assassinat d'un prêcheur saoudien et la mort du président des chasseurs traditionnels qui a été poignardé dans l'est du pays suscitent un grand débat au sein de la communauté musulmane. Une enquête a été ouverte et les autorités locales ont déjà procédé à des arrestations. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
Selon une source officielle, 5 personnes soupçonnées d'être liées à l'assassinat du prêcheur saoudien sont arrêtées. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de la mort du prédicateur. L'homme était très connu dans les milieux musulmans pour ses prêches et sa participation à la construction des mosquées. Il a été tué mardi sur le chemin de retour dans le village de Kantedougou, Balandou, à Mandiana, dans l'est du pays, alors qu'il venait de terminer une activité de prêche. Après l'assassinat du missionnaire saoudien, une réunion d'urgence a réuni le lendemain les associations islamiques, l'autorité préfectorale de Mandiana et les chasseurs traditionnels. La démarche visait à réunir tous les éléments susceptibles de faire la lumière sur ce crime. Malheureusement, un autre crime sera commis juste après la rencontre. Le président des chasseurs traditionnels l'a accusé d'avoir organisé une réunion secrète quelques heures avant l'assassinat du Saoudien, a succombé à ses blessures après avoir été attaqué à coups de couteau par un jeune religieux. Dans la capitale, l'information est beaucoup commentée et ils sont nombreux des Guinéens qui attendent des réponses et les conclusions de l'enquête sur un crime commis dans un pays dont la population est majoritairement musulmane avec plus de 80% d'adeptes. Zakaria Kamara, Conakry, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Violence en RCA, Peter Maurer, président du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, vient d'effectuer une visite de travail de 4 jours en Centrafrique, pays déchiré par les conflits armés et confronté à une crise humanitaire très grave, notamment dans l'arrière-pays. Jean-Yves Clémenceau, porte-parole du CICR pour l'Afrique, brosse un tableau de la situation RCA au micro de Félix Yepassi Zembro.
Après une année 2017 très très difficile, avec des déplacements de population les plus importants depuis le début de la récente crise qui a commencé en 2013, le premier mois de 2018 est aussi difficile. On voit qu'il y a eu des combats dans le nord-ouest, le sud-est, il y a de nouveaux déplacés. Donc les perspectives sont plutôt négatives en République centrafricaine. Un cinquième de la population est déplacée, la moitié de la population a besoin d'aide humanitaire. Donc c'est un constat pessimiste.
Monsieur Maurer s'est rendu à l'intérieur du pays, notamment à Kakabandro et à Bambari, où il a rencontré des représentants des groupes armés. Quel message a-t-il apporté à cette occasion aux belligérants?
Alors ça fait partie du travail habituel du CICR de rencontrer toutes les parties au conflit, de leur passer un message de respect du droit international humanitaire. C'est l'ensemble des règles qui servent à protéger les populations civiles lorsqu'il y a un conflit armé. Donc un message de protection qui a été passé. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'à Kagabandoro et Bandari, M. Maurer a aussi rencontré des gens déplacés. Il s'est entretenu avec des personnes touchées par le conflit. Et malgré une situation, il a rencontré des gens qui essaient de se débrouiller, qui font preuve de résilience, qui essayent aussi, certains, de développer des petits projets. Donc il y a quand même aussi un espoir dans cette période difficile.
Et il a aussi rencontré les autorités du pays. Quel message a-t-il apporté à ces dernières?
C'est le même message qu'avec les groupes armés. C'est un message de respect du droit international humanitaire. C'est un message d'engagement pour essayer de trouver des solutions en vue de parvenir à une résolution du conflit. Ce qu'on peut dire, c'est que l'humanitaire ne sera pas suffisant. Il faut un engagement beaucoup plus grand, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Centrafrique, pour trouver les solutions. Et M. Maurer a passé aussi un message envers la communauté internationale pour ne pas oublier la Centrafrique.
La crise centrafricaine perd. L'on voit que le personnel du CICR, de la Croix-Rouge, est souvent menacé. Bon, le CICR maintiendra toujours sa mission dans ces zones de conflit.
C'est un challenge perpétuel. L'an passé, le mouvement Croix-Rouge a perdu 13 personnes au cours de leur mission. C'est beaucoup, c'est trop, c'est pas acceptable. Il n'y a pas que les humanitaires qui ont des difficultés. Il y a aussi des centres de santé qui sont attaqués, qui sont pillés. Donc on lance un appel au respect du personnel de la Croix-Rouge, de tous les humanitaire, parce qu'au final, ce sont les populations qui souffrent. On a perdu un collègue au mois de novembre. Et bien, en général, on doit interrompre nos activités, peut-être même parfois les arrêter. C'est grave, ça touche au final les populations.
Jean-Yves Clémenceau, porte-parole de la Croix-Rouge internationale pour l'Afrique. Et puis au Burundi, un groupe parlementaire d'opposition dénonce l'arrestation de plus de 40 de ses militants. Le gouvernement leur reproche de battre campagne contre le référendum avant l'ouverture officielle de la campagne en ce sens, John Lindon.
Selon Pierre-Célestin Dikoumana, président de ce groupe, 42 militants du mouvement Amizero-Ya Barundi ont été arrêtés arbitrairement et emprisonnés depuis le 12 décembre. Ils sont accusés de faire campagne pour le non. Ce mouvement regroupait au départ les ex-rebelles du FNL dirigé par Agathon Rwasa et l'ancien parti unique UPRONA de Charles Ndidijé. Par la suite, M. Rwasa a été élu vice-président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a lancé le 12 décembre une campagne d'explication autour de la réforme constitutionnelle. La campagne officielle commence 2 semaines avant le référendum. Les Burundais doivent se prononcer sur un projet de révision de la Constitution qui permettrait au président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer à partir de 2020 deux mandats de 7 ans. Ce référendum était initialement prévu en février. Il a été reporté au mois de mai.
Et pour terminer l'actualité ici aux États-Unis, le Congrès américain a surmonté jeudi un premier obstacle grâce à la Chambre des représentants qui a voté un budget provisoire pour éviter la paralysie des administrations fédérales. Mais la menace de chômage forcé pour des centaines de milliers de fonctionnaires pèse toujours avec un vote très serré encore attendu au Sénat. Date butoir pour éviter la paralysie des administrations fédérales ce vendredi soir à minuit. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.